Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur notre site et je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons procéder à une réflexion que j'ai intitulée « Le mécanisme, le ou les mécanismes de la tentation ». Alors, en ce qui concerne la tentation, nous pouvons dire tout d'abord que c'est un phénomène qui est propre aux humains. Mais savons-nous lui donner une explication crédible et avant tout biblique, évangélique ? À savoir, ces mécanismes, son pouvoir d'emprise sur nos pensées, nos sentiments, notre cœur, ses causes et ses conséquences, comment la surmonter et la vaincre. Alors, pour ce faire, j'ai pensé exposer cet épisode de la vie de Jésus dans l'évangile de Luc, que nous trouvons également dans l'évangile de Marc, mais j'ai choisi Luc chapitre 4 et nous allons faire cette lecture maintenant. Alors, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Voilà pour notre lecture. Nous avons là devant nous trois nature de tentation et nous voyons que la première proposition qui est faite c'est le diable qui s'adresse à Jésus et qui lui dit puisque tu as faim change tout simplement ces pierres que tu vois devant toi tu les changes en pain. Le lieu se trouve être justement le désert et c'est véritablement là la tentation par rapport à l'ego. Le moi en est la cible, parce que c'est une proposition, une tentation pour échapper à la difficulté. La difficulté, c'est tout simplement la faim, les besoins naturels. La nature de la suggestion, nous pouvons y ajouter, c'est agir tout simplement indépendamment de la volonté de Dieu pour satisfaire ses besoins personnels. Je relis le verset 3, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, nous voyons qu'il y a là la suggestion d'un doute pernicieux, si tu es le Fils de Dieu, alors à ce moment-là, parce que tu es tout-puissant, en étant fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Le péché qui est incriminé, le péché qui se cache derrière la tentation, qui est en quelque sorte en perspective, en enfantement, nous pourrions dire, c'est le manque de confiance en Dieu. Exemple, je voudrais simplement cette parole, c'est qu'un homme qui vole pour manger pêche. C'est ce que nous pouvons dire parce qu'il vole, bien que son appétit soit légitime et naturel, il lui a été donné par Dieu. Alors nous verrons un peu plus tard ce que veut dire justement, eh bien là, c'est associé entre eux, eh bien là, manger, voler et pécher. Le but de la tentation, c'est échapper à la souffrance, et en l'occurrence, la souffrance est la fin de Jésus, puisqu'il nous est simplement dit qu'il est là en errance depuis 40 jours dans le désert et sans manger, en jeûnant, alors il a faim. Et échapper à la souffrance par un ou des procédés qui ne correspondent plus à la volonté de Dieu. Et je rajoute ce que j'ai déjà introduit il y a un instant, manger est légitime, voler est une infraction. Et pour Jésus, comme pour nous d'ailleurs, c'est un test ou une épreuve de la foi. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quelle situation je me trouve? Est-ce que véritablement, parce que je suis en souffrance, je vais désobéir à Dieu ou je vais attendre que Dieu vienne et me donne la solution, solution que je ne connais pas, mais sur laquelle eh bien, je me confie. En face du problème, que vais-je faire? La victoire de Christ, eh bien, nous est donnée une bonne connaissance et une bonne utilisation de la parole de Dieu. Puisque Jésus le dit, Jésus lui répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors cette victoire de Christ, donc, je l'ai dit, c'est bien connaître la parole de Dieu et bien l'utiliser. Notre soumission, considérant la volonté de Dieu comme prioritaire. Qu'est-ce que je fais? Je suis en face d'un dilemme, j'ai faim, je meurs de faim, j'ai d'un côté, eh bien là, en effet une pierre, le diable me suggère de la changer en pain, comment vais-je réagir? Donc, nous l'avons dit, considérant la parole de Dieu comme prioritaire sur nos besoins propres, c'est-à-dire Dieu qui passe avant moi, est-ce que je vais me précipiter pour obéir au diable, ou est-ce que je vais attendre que Dieu me donne une autre parole qui va être la parole de secours, la parole de délivrance? Nous pourrions dire que la nature de cette première tentation, c'est une tentation de la chair, une tentation charnelle, puisqu'il s'agit de la faim. Et nous voyons, et nous l'avons dit, il y a là un besoin ou des besoins humains et naturels qui sont normaux. Celui qui a dit, en effet, qui nous a donné la vie et qui a créé la faim, la soif et tous les besoins naturels, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui les a créés. C'est lui qui m'a mis dans cette situation. Est-ce qu'il va m'abandonner? Est-ce qu'il va me laisser tomber? Ou alors il va véritablement, eh bien, intervenir? Vous savez que dans la nature humaine, il y a des faims en tout genre. Là, il s'agit du pain qui nourrit le corps, mais il peut y avoir aussi, eh bien là, des appétences pour tant d'autres choses sur le plan, c'est vrai, physique, sur le plan matériel et peut-être également sur le plan spirituel, nous le verrons et nous en parlerons d'ici quelques instants. Le problème se pose. Responsable. Le responsable, eh bien, pouvons peut-être citer l'égoïsme, c'est-à-dire moi avant le reste, l'impatience, la stupeur de la souffrance. Moi d'abord. Et vous savez que dans une des épîtres de Jacques, et je voudrais signaler ce passage parce qu'il est très significatif, qu'est-ce qu'il nous est dit? Jacques nous dit par rapport à la tentation cela. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Mais chacun est tenté quand il est attisé et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consumé, produit la mort. Voilà ce que nous dit Jacques par rapport à cette première tentation qui aura pour objet, eh bien là, de nous faire sortir du cadre de Dieu pour satisfaire nos besoins naturels, nos besoins charnels. Nous avons quelques exemples bibliques d'impatience ou d'anticipation, en ne voulant pas attendre, eh bien, que Dieu nous parle. Et ça, c'est naturellement, eh bien, un fruit de l'esprit de savoir se maîtriser, de savoir là être tempérant. Par exemple, je prends comme proposition, nous avons Pierre par exemple, qui devant l'imminence de l'arrestation de Jésus va sortir son épée et va commettre véritablement une faute en coupant l'oreille, en voulant défendre Jésus avec précipitation et couper l'oreille, d'un serviteur du sacrificateur. Nous avons Nicodème également, un homme qui est en recherche de Dieu, qui est véritablement un homme remarquable par rapport à sa fidélité à Dieu, et qui là, de crainte d'être, puisqu'il a une position imminente, de crainte d'être désavoué, va venir voir Jésus de nuit, mais là, il va se cacher, il va venir la nuit. Donc la tentation, c'était de dire, je ne donne pas tout, je ne me montre pas, mais je vais quand même y aller, mais je ne veux que personne me voie. Donc là, il y a en effet un déguisement, en quelque sorte, par la tentation. Et puis il y a naturellement cette question de ce jeune homme riche qui va venir, qui va s'affaler aux pieds de Jésus en lui disant, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et quand Jésus va lui répondre, il va pas avoir le courage d'aller plus loin parce que le prix que Jésus lui demande est trop élevé, c'est le prix du renoncement. Et nous voyons que, il va céder à la tentation. Qu'est-ce que je fais? Je suis Jésus, ou alors, je recule, je l'abandonne. Alors, agir selon notre idée. Nous le voyons pour Pierre, nous le voyons pour Nicodème, nous le voyons pour le jeune homme riche. Quels que soient les moyens pour y parvenir, par manque de volonté. Il y a naturellement la deuxième tentation qui apparaît. Le lieu, c'est la montagne. La première proposition nous était faite que Jésus a été conduit dans le désert, dans l'isolement, dans la solitude, tout seul. Là, il s'agit de la montagne. Et nous voyons que la montagne, c'est naturellement un lieu élevé où on peut voir tout autour. Et ça, c'est la caractéristique. L'argument est celui-ci. Si tu te prosternes et tu m'adores, dit le diable à Jésus. Si tu te prosternes et m'adores, il s'agit d'un compromis, une tentation de compromis, voire plus qu'un compromis, c'est plutôt une compromission. Comment faire ? Pour établir le royaume de Dieu sans renoncer à soi-même. Vous savez que dans tout le message de l'Évangile, Jésus dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, que s'il aime plus son père, sa mère, et puis ses frères et ses sœurs, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc, il s'agit d'une proposition que Dieu nous fait, de renoncement, alors que le diable, lui, va faire exactement le contraire, de lui dire, écoute, tu veux la gloire, tu veux la puissance, tu veux le pouvoir, moi je te donne tout ça, mais à la condition, et je le redis, si tu te prosternes et tu m'adores. Satan tente Jésus sur ce que Dieu lui avait déjà promis, parce que Dieu avait dit à Jésus, son oint, c'est-à-dire celui qu'il avait choisi comme rédempteur, comme sauveur. Et là, c'est une proposition de détournement, d'aller jusqu'à la croix et d'accomplir le salut de Dieu. Donc, Dieu lui avait dit, Dieu le Père lui avait dit, tu règneras, en effet, sur l'univers entier, sur la terre entière. La tentation, cette fois-ci, consiste à s'approprier une des promesses divines ou les promesses divines en évitant la souffrance, l'attente, la croix. Proposition de la voie de la facilité. De dire, maintenant je te donne tout ça. Avec Dieu c'est difficile, avec ton Père Céleste c'est difficile, mais avec moi c'est très simple, à la condition de. Et nous avons dans Jacques, également dans l'épître de Jacques, cette parole qui nous explique le mécanisme de nos dualités, de nos hésitations, de nos doutes, de tout ce qui peut être en effet qui nous est proposé et qui crée en nous des défis, des batailles, en quelque sorte. Donc, nous voyons dans Jacques chapitre 4, je lis le passage, où Jacques dit ceci, « Mais d'où viennent vos luttes intérieures? D'où viennent vos querelles? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres, c'est-à-dire dans votre esprit, dans vos pensées, dans ce que vous êtes? Vous convoitez, c'est-à-dire vous désirez abondamment, avec de l'envie, voire peut-être de la jalousie, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier envié, mais vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes avec vous-même et avec les autres, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Or, si vous demandez quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est encore, eh bien là, la dominante de notre moi, de notre ego, de notre orgueil, qui fait la différence. Là, nous voyons que la deuxième tentation, c'est la voie de la facilité. On veut échapper, eh bien, à la souffrance, ce qui est tout à fait légitime. On veut échapper à l'épreuve. Si tu m'adores et si tu me cernes, si tu me sers, si tu te prosternes et m'adores, si tu me sers. Adorer et servir Dieu consiste en une vie d'obéissance, quoi qu'il en coûte. La tentation qui est faite, cette deuxième tentation qui est proposée par le diable à Jésus, nous pourrions dire que c'est une tentation subjective. Elle ne concerne pas le corps, elle ne concerne pas nos besoins naturels, nos impérieuses satisfactions nécessaires à la vie, mais elle est subjective, donc elle est intérieure, parce qu'elle flatte l'orgueil où il n'est plus question de souffrance, comme dans la première tentation, souffrance ressentie dans nos corps, mais plutôt, eh bien là, une tentation de jouissance. C'est le contraire. Souffrance, première tentation, deuxième tentation, jouissance, c'est-à-dire être heureux, le bonheur. Et nous savons que le diable, eh bien, promet le bonheur aux hommes, mais il en revient, il en ressort que le malheur. Derrière, finalement, eh bien là, des appâts ou des approches qui sont eh bien quelque chose qui peut plaire au départ. Le plaisir, le loisir, la jouissance, tout cela, c'est eh bien un mensonge. La stratégie diabolique qui est avancée réside en ceci. Offrir à Jésus de régner, le diable offre à Jésus de régner, tout en permettant à Satan, qui lui fait la suggestion de garder sa position, de prétendre rester le maître et rester le souverain, qui est basé sur un mensonge éhonté. C'est ce que nous dit le verset 6 que je relis. Il est dit, le diable éleva et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car, et voilà le mensonge, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Si donc tu te prosternes, eh bien, elles seront toutes à toi. Nous voyons que là, il y a quelque chose, comme dans la première tentation dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu aurait réellement dit? Et le diable d'ajouter à ce moment-là auprès d'Ève et d'Adam, eh bien, vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas, etc., etc. C'est exactement le même scénario qui est proposé à Jésus dans cette situation. Donc, c'est une prétention à la gloire, hein, sans la nécessaire humiliation qui la précède. Parce que toute la Bible, tout le message de Dieu, le message de l'Évangile est réglé sur cette parole du livre des Proverbes, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et nous voyons que tout est basé dans le message du salut. Pour accéder au salut, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour obtenir la bénédiction de Dieu, pour en effet devenir une nouvelle créature, tout est basé, eh bien, sur l'humilité qui précède la gloire. L'orgueil chez les hommes dans ce monde, eh bien, augure la chute à un moment ou à un autre. Nous le voyons chez les grands hommes, nous le voyons chez l'homme commun, hein, voilà. Mais nous voyons également dans la Bible, et les résultats sont tout à fait différents à travers les exemples qui nous sont donnés, c'est que l'humilité, celui qui s'humilie, celui qui se met aux pieds de Jésus, celui qui véritablement, eh bien, accepte sa volonté et renonce à lui-même, alors à ce moment-là, ça ne sera pas une gloire terrestre, ça ne sera pas une gloire de cette terre ou matérielle, de richesse, hein, de popularité ou tout ce que vous voulez, ça sera une gloire céleste et éternelle. C'est là où il faut comprendre la différence. Donc, l'absolu est de passer par la croix, c'est-à-dire de se mettre dans une position où, avant de ressusciter, de vivre une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a nécessairement, eh bien, la mort à soi-même. Nous avons quelques exemples, comme nous en avons donné, par exemple, Judas le traître. Judas, le disciple de Jésus, qui était près de Jésus, eh bien, là, pour quelques pièces d'argent, eh bien, a cédé à la tentation, en effet, de de livrer Jésus. Et puis, ça correspondait à un messianisme charnel, c'est-à-dire que chez Judas, il pensait que, eh bien, si Jésus arrivait à la gloire et qu'il parvenait à véritablement cette gloire sur terre, terrestre, eh bien, il chasserait les Romains de Palestine et puis il deviendrait roi et lui, naturellement, eh bien, étant aux côtés de Jésus, eh bien, deviendrait prince. Enfin, c'est tout un mécanisme d'espérance qui sont complètement folles. Nous avons un autre cas, c'est eh bien, l'histoire de ce serviteur d'Élisée qui s'appelle Géasi et lui, eh bien, il a cédé à la tentation de la cupidité. En effet, d'avoir de l'argent, d'avoir des trésors, etc., etc. C'est-à-dire, nous pouvons dire que ce soit Judas ou que ce soit Géasi, c'était des demi-obéissances. Il voulait bien de l'un, mais il voulait bien de l'autre. Il voulait bien servir deux maîtres à la fois. Et nous savons que ça, c'est la vieille chanson, la vieille, c'est toujours la même chose dans l'histoire du monde. Si tu te prosternes, si tu m'adores, si tu me sers, le diable, eh bien, menace. Et c'est un ultimatum qui veut clairement dire à Jésus, tu te fais mon ami, Jésus, ou alors, à ce moment-là, eh bien, tu deviens mon ennemi. Et nous pouvons dire qu'à travers toute la vie de Jésus, nous le voyons de jour en jour, de mois après mois. Eh bien, de fait, le diable va liguer toute la terre contre Jésus. Et nous pouvons savoir que le chemin de Jésus est un chemin de persécution, un chemin douloureux, mais il a été vainqueur. Et puis la troisième tentation, elle est intéressante aussi parce que la première était purement, on pourrait dire, matérielle, la deuxième était charnelle et subjective, et la troisième, elle est spirituelle. On va le découvrir ensemble. Le lieu, c'est Jérusalem. Ce n'est plus le désert, ce n'est plus la montagne, mais c'est Jérusalem. Jérusalem comme étant le symbole pour les Juifs, hein. Et pour, en effet, les chrétiens aujourd'hui, c'est véritablement le symbole de la spiritualité. C'est une autre dimension. C'était les trois dimensions dans lesquelles le diable a voulu, tenter Jésus, ce Dieu incarné, corps, âme et esprit. Donc Jérusalem, l'argument, c'est de sauter dans le vide. Voilà, sauter dans le vide, sans dommage, c'est-à-dire tenter l'impossible. C'est-à-dire, tout simplement, eh bien, proposer à Jésus de monter sur là le haut des tours du temple de Jérusalem et de lui dire, de lui suggestionner, tout simplement, eh bien, tu vas sauter de haut jusqu'en bas et il ne t'arrivera rien parce que les anges vont te garder. Donc, ça, c'est véritablement un mensonge qui a des conséquences mortelles. Donc, c'est un défi des lois naturelles établies par le Créateur. Voilà, nous sommes des hommes et nous savons qu'il y a des limites, il y a des frontières, il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, même si elles sont miraculeuses en apparence pour nous, même si elles sont spectaculaires pour les autres, même si c'est un désir de puissance. Hein, on avait vu la puissance des royaumes et puis des richesses du monde. Là, mais il s'agit non pas des richesses sur le plan de la vie sur la terre, mais des richesses spirituelles de paraître plus fort, plus puissant que les autres hommes. Donc, défi des lois établies par le Créateur. Et dans le verset 9, le diable, je reprends, le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, nous l'avons dit, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, toujours cette suggestion de doute hein, qui est toujours en toile de fond, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, mais les anges, eh bien, auront l'ordre à ton sujet, eh bien, qu'ils te gardent, ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Voilà la réponse. Il s'agit de défier la difficulté, de l'ignorer, et la nature de cette suggestion, de cette tentation, est essentiellement spirituelle, l'avons-nous dit, parce qu'elle pousse au fanatisme. Voilà, nous voyons que la souffrance pousse à la révolte, la deuxième tentation pousse à l'orgueil, et puis là, ça pousse au fanatisme, c'est-à-dire agir témérairement, et bien là, par fausse ou excès de confiance en soi-même, en provoquant Dieu d'intervenir. Et c'est intéressant de commenter un petit peu cette attitude, parce que nous voyons que s'il y a quelque chose qui rend les gens fous, c'est le fanatisme religieux, le fanatisme que nous pourrions dire, eh bien, pseudo-spirituel, qui a l'apparence du spirituel, qui a l'apparence qui est mystique, qui est fantastique, et qui quelque part, eh bien, nous fait naviguer entre ciel et terre, en disant nous ne sommes plus des hommes, mais nous sommes des demi-dieux en quelque sorte, parce que nous avons la puissance et le pouvoir. Donc, cela pousse au fanatisme, c'est-à-dire ce que nous pouvons appeler, eh bien, une attitude téméraire. Et il ne faut pas confondre la témérité avec la foi. Nous avons un exemple, et je reparle de Pierre, qui là, eh bien, en effet, a dit des choses, a fait des choses, a provoqué même Jésus par témérité. On sait que, quelque part, eh bien, Pierre a été repris par Jésus. Et puis, jusqu'à un certain moment, eh bien, il a chuté, hein, il a renié Jésus, parce qu'il était téméraire. Et tout simplement parce qu'il avait un excès de confiance en lui-même. Et il ne savait pas où étaient les limites de sa faiblesse. Et il a provoqué Dieu d'intervenir. Si véritablement, eh bien, tu fais ceci, tu fais cela, mais Dieu va t'aider, Dieu va être là. Mais ça s'appelle commander Dieu. Et puis, tenter Dieu, eh bien, cela, ça a un nom, naturellement. Tenter Dieu, ça veut dire tout simplement prétendre, commander Dieu, selon notre volonté, exiger de lui qu'il se plie à nos désirs, à nos desiderata. Seigneur, j'ai décidé, mais maintenant tu me bénis. Alors que c'est le contraire. Dieu veut que nous soyons obéissants, que nous soyons en effet dans sa dépendance, que nous restions complètement et totalement dans sa dépendance, et il fera de nous ce qu'il voudra. Et il nous donnera autant convenable, ou il ne nous donnera pas. Hein, il est capable de nous dire oui, il est capable de nous dire non, et puis il est capable de ne rien dire, ce qui veut dire, eh bien, attends, tout simplement. Donc, ça, c'est tenter Dieu. Le but de cette troisième tentation est dans sa finalité, non la gloire de Dieu, c'est-à-dire provoquer un miracle, mais une recherche non avouée, hypocrite de reconnaissance et de popularité auprès des autres hommes. C'est un orgueil démesuré de soi qui prétend se servir de Dieu, qui prétend se servir de sa puissance et qui prétend utiliser le surnaturel divin pour faire la preuve que Dieu existe. C'est-à-dire que c'est une véritable folie de dire, eh bien voilà, moi j'ai demandé à Dieu cette chose impossible et je vais vous prouver que Dieu existe par la réalisation et l'exaucement de cette chose impossible. Alors nous pouvons compter que jamais Dieu nous exaucera dans ce domaine. Ici, Satan incite Jésus à mettre Dieu à l'épreuve pour convaincre Israël qu'il est bien le Messie par un miracle gratuit et spectaculaire. Alors ça, c'est de la pure, pure folie. Puis je termine. Les moyens employés, c'est l'Écriture, puisque les choses nous sont dites. Au verset 9, il est dit ceci, eh bien, cette parole, Jésus lui répondit dans la troisième tentation, il est écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, ça c'est la victoire, jusqu'au moment favorable. Et il y en aura des moments favorables qui sont provoqués tantôt par ses adversaires, les pharisiens, les sadducéens, tantôt par des hommes qui auront été, eh bien, les manipulés de l'adversaire dans des choses qui sont là des provocations, jusqu'à la croix, naturellement, Gethsémané à la croix. Satan est passé maître dans l'art de la manipulation, de la déformation et de la contrefaçon de l'Écriture sainte. C'est cela, justement, le gros problème. Alors, on pourrait dire, mais parce que c'est la parole, parce que c'est l'Écriture sainte, parce que Dieu a dit. C'est vrai, Dieu a dit. Mais tout dépend comment, véritablement, quelle est l'inspiration de tout ça. Si c'est l'inspiration du Saint-Esprit, il n'y a aucun problème. Mais si c'est l'inspiration de nos cœurs, qui sont là, aux prises avec la convoitise, avec, eh bien, des désirs insensés, ça ne marchera pas. Et peut-être il y a aussi une autre inspiration qui est celle de l'adversaire pour nous amener dans le mur. C'est le danger de toujours. Souvenons-nous, là nous voyons que nous avons devant nous le spectacle, hein, les propositions de tentation sur la personne de Jésus comme sur nous-mêmes aujourd'hui, il n'y a rien échangé. Donc la manipulation, la déformation de l'Écriture, la contrefaçon, pardon, de l'Écriture. Et c'est ce qui s'appelle tordre le sens des Écritures pour en faire ce que nous voulons. Donc, nous pouvons terminer tout simplement, et bien là, c'est une forme, et bien, subtile. La troisième tentation est une forme la plus subtile de révolte contre Dieu. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, nous pouvons nous y reconnaître dans ces exemples, dans cette parole, mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons véritablement rester dans la dépendance. Le premier péché, et bien, a porté dans le jardin d'Éden sur cette indépendance de l'homme, eh bien, à véritablement rompre les liens avec Dieu. Et nous savons qu'il y a ces trois dimensions, la dimension charnelle et humaine, la dimension morale de l'homme et la dimension spirituelle. Et la tentation porte vraiment sur tout cela. Et je crois que nous avons besoin de nous souvenir de cette parole, et ce sera le mot de la fin quand il est dit, eh bien, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous dit, croyez en Dieu et croyez en moi, parce que j'ai vaincu le monde. Alors, nous pouvons nous mettre du bon côté. Je crois que tout chrétien qui véritablement a fait cette expérience profonde d'une nouvelle naissance, eh bien, maintenant, se met du côté et se met dans les rangs de Jésus, qui lui-même va le conduire, non pas vers toutes sortes d'errances, toutes sortes de vagabondages dans des doctrines, dans des expériences, dans toutes sortes de voies sans issue, mais il va nous conduire dans la vérité, il va nous conduire dans la sagesse, il va nous donner la prudence des choses, il va nous donner tout ce qui est nécessaire, et à l'instar de cette parabole qu'il nous laisse, il parlera d'un sage qui a construit sa maison sur le sable, parce que c'est Jésus, c'est sa parole, et il parle aussi d'un fou, d'un homme insensé qui a construit sa maison, et bien là, sur, alors l'un c'est le sable, l'autre c'est le roc, et nous, nous voulons être de ceux qui choisissons de mettre notre vie, notre maison, sur quelque chose de solide, c'est-à-dire la personne de Jésus et sa parole. Que Dieu nous bénisse, et à très bientôt. Merci beaucoup.